Non, rien de rien.
Bienvenue à tous et à toutes dans Les Unicouriens sur Radio Assivière. Programme qui vous propose des créations, reportages, documentaires ou rien.
Rien de rien.
Fait chez nous ou ailleurs.
Non, je ne regrette rien.
Bienvenue, vous êtes sur Radio Assivière, la radio de la montagne Limousine. On est sur l'émission Unicouriens. Du 22 au 30 juin, on a été en résidence entre artistes queer et transpédéguines à la gare de Felletin. On était un collectif éphémère composé de Cléméo Lebert, Gaët Rivière, Lou et André, aka Aquafem, réunis par Madame Moisix, artiste plasticien qui vit sur le plateau de Mille Vaches. On a passé la semaine ensemble pour se rencontrer et produire des formes plastiques et culinaires. Le vendredi soir, il y a eu une sortie de résidence pour découvrir, déguster, lire, entendre tout ce qu'on avait concocté durant les jours précédents. A eu lieu aussi le spectacle Which is Nice de Lou et Juliette qui faisait écho à nos recherches. C'était un super moment de partage. Dans cette émission, on va vous partager un ensemble de textes qu'on a écrits ou qui nous tiennent particulièrement à cœur, avec comme fil rouge le thème des identités queer et LGBTQIA+. Vous écoutez l'épisode 2 sur 2. On remercie chaudement l'équipe de la gare, de Radio Assivière et la région Nouvelle-Aquitaine de nous avoir permis de mener cette résidence et de pouvoir vous présenter cette émission aujourd'hui.
On commence par un petit lexique. Femme, butch, des termes qui viennent de la communauté lesbienne pour désigner des personnes adoptant des habits ou des comportements habituellement attribués au masculin ou au féminin. Il s'agit d'une réappropriation de codes et pas d'une redite de l'hétérosexualité. Gwyn, PD, queer, initialement des insultes, ces mots ont été réappropriés pour la communauté pour en faire une fierté. Leur utilisation est réservée aux personnes concernées. En anglais, queer veut dire tordu, bizarre. Non-binaire, une personne qui ne se reconnaît pas dans la binarité masculin-féminin qui régit nos perceptions normées du genre. L'identité non-binaire recouvre de nombreuses identités. Agenre, gender fluide, non-binaire transmasque, non-binaire transfemme. Passing, le fait d'être perçu, aux yeux des autres, comme une personne cisgenre. On dit « il passe », « il a un bon passing ». TPG, représente la communauté transpédéguine. Transition, processus de modification de sa manière de se présenter aux autres, socialement et ou physiquement, selon les individus. Une transition peut inclure un changement de style vestimentaire, de prénom, au niveau hormonal, des opérations chirurgicales. Transgenre et cisgenre. Trans correspond à une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre, homme ou femme, assigné à la naissance. Cis correspond, à l'inverse, une personne qui se sent en accord avec son genre assigné à la naissance. Avant de se lancer, on vous prévient que certains textes contiennent des scènes de sexualité, de nudité, des mentions d'homophobie ou de transphobie.
Je vais lire un morceau de l'introduction de « Comment devenir lesbienne en 10 étapes », un livre de Louise Morel qui est paru en 2022. On est lesbienne et on le devient. Je sais qu'il y a des femmes pour qui c'était clair, au fond, depuis le tout début. Certaines l'ont toujours su et ont exploré leur désir dans la joie. D'autres m'ont raconté comment elles avaient lutté pour contenir leur désir pour des femmes, s'étaient forcées à coucher avec des hommes, avaient vécu dans le secret et parfois la honte, leur attirance pour le sexe adéquat. Le sexe adéquat, c'est le symétrique du sexe opposé. C'est aussi le récit que j'ai le plus souvent rencontré dans les médias. On y entend parler du poids que représente le fait de subir son homosexualité, d'y être aspiré malgré soi. Ce livre ne parle pas de ça. Du tout. Parce que ce n'est pas moi. Nul tourbillon irrésistible ne m'a entraîné. Il n'y a pas eu de révélation ni d'évidence. Je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « Maintenant, j'en suis sûre, j'aime les femmes et je n'aime que ça. » Je n'ai même pas eu de prédestination rétrospective. Enfant, rien ne me poussait vers les autres filles et encore moins vers les activités dites « de garçon », contrairement aux clichés sexistes qui voudraient voir en chaque lesbienne un ancien garçon manqué. J'ai joué avec beaucoup d'enthousiasme la fille réussie et vécu en hétérosexualité longtemps, dans un certain confort. J'ai connu presque 5 ans de vie commune avec un homme 6-7 et, bien qu'a posteriori l'autopsie du mort permette toujours de déceler en lui la peste et le choléra, je pense que l'on peut dire que c'était une jolie histoire d'amour, aussi jolie qu'elles peuvent l'être quand elles sont hétérosexuelles. Personne ne m'a forcé, du moins pas de façon littérale, à baiser des mecs. Si l'on m'avait posé la question à l'époque, j'aurais dit que j'étais très contente comme ça. Je ne parle pas d'un temps reculé. J'avais encore un amant il y a quelques années, un mec cis, et je trouvais du plaisir à sa compagnie, qu'il s'agisse de faire du sexe, de discuter ou de regarder des films en somnolant. Et pourtant, aujourd'hui, je suis devenue Gwyn. J'ai tracé mon chemin, à pas de louveteau et à tâtons. Ce qui veut dire aussi, j'ai l'impression d'avoir fait un choix. Bien sûr, je n'ai pas fait le choix d'être attirée par les femmes. D'autant que mes actes sont prédéterminés par de nombreux éléments différents et que le libre choix n'existe pas. Moi aussi, je me souviens bien de mes cours sur Spinoza. Néanmoins, au sens courant, j'ai l'impression d'avoir fait un choix. Je sais que cette notion pose un sérieux problème. Les homophobes adorent s'appuyer dessus pour soutenir que, dès lors que les personnes homosexuelles font le choix de leur sexualité, elles doivent aussi faire le choix de tout ce qui vient avec et mérite d'être traité comme des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire frappés, humiliés, rejetés, dégradés, privés du droit de vivre avec les gens qu'elles aiment, dépouillés de toute possibilité d'enfanter et de faire famille. Certains tirent même argument de l'éventualité d'un choix pour imposer des thérapies de conversion, qui sont très mal nommées puisqu'elles n'ont rien de thérapeutique. Il s'agit de tortures mentales et physiques destinées à faire revenir les personnes homosexuelles ou transgenres sur leur choix pour les ramener dans le droit chemin de la cis-hétérosexualité. Face à cette menace, la tentation est grande de se défendre en disant qu'on n'a rien choisi. Mais je crois que le problème dans ce raisonnement, ce n'est pas de savoir si les PD et les Gwyn choisissent ou non d'être ce qu'elles sont. Le problème, c'est de penser que l'homosexualité devrait être évitée. Le problème, c'est de ne la tolérer, à contre-cœur et à reculons, qu'à la stricte condition de ne pouvoir faire autrement, sur le mode « il s'agit d'un mal nécessaire ». Que beaucoup d'entre nous aient envie de clamer qu'elles n'ont pas eu le choix, évidemment, je l'entends et je le respecte, profondément. Je comprends que ces personnes aient envie de bondir quand certaines, le plus souvent avec un sous-texte homophobe, annulent leurs expériences et leurs sensibilités en décrétant que « les homos ont fait un choix ». Néanmoins, je pense que la réponse consistant à affirmer et à répéter que l'on ne choisit jamais pose problème. Parce que cela annule d'autres expériences, d'autres vécus, d'autres sensibilités. En transformant en vérité générale, personne ne choisit son orientation sexuelle, ce qui relève d'un vécu intime propre à chacun, nous risquons de nous faire piéger dans la logique homophobe selon laquelle le seul élément qui pourrait justifier éventuellement de ne pas nous traiter comme des sous-merdes, serait de nous considérer comme des victimes de notre orientation sexuelle. Des déviantes malgré nous. Enfin, la rhétorique de l'absence absolue de choix permet au passage de naturer l'hétérosexualité. Tiens donc. Comme par hasard, la seule chose qui pourrait justifier l'homosexualité aux yeux des homophobes, à savoir naturaliser l'orientation sexuelle, est aussi précisément ce qui permet d'asseoir le régime hétérosexiste comme régime hégémonique. En effet, dire que personne ne choisit son orientation sexuelle, que celle-ci est figée pour toujours, revient à dire que toutes les personnes hétérosexuelles l'ont toujours été et le seront toujours. Que le monde sera toujours majoritairement hétérosexuel. Donc que l'hétérosexualité est naturellement dominante et que toute autre forme de sexualité est par essence déviante et minoritaire. Non, je refuse d'avoir des droits sur la base de ma soumission à un régime hétérosexiste reconnu d'emblée comme naturellement majoritaire, naturellement dominant. On ne mérite pas le respect parce qu'on n'a pas le choix. On mérite le respect, point. Et on a tout à fait le droit d'avoir envie de sortir de l'hétéropatriarcat. En ce qui me concerne, il y a donc une part de choix dans le fait que je ne sois pas en couple avec un homme cis. Je ne sais pas combien nous sommes, mais je ne suis certaine de ne pas être la seule. Toutes les personnes qui ne sont pas attirées que par un genre ou qui ne se sentent pas structurées par le genre font face à une forme de choix. Et finalement, que je le vive comme un choix ou pas, la question n'est pas là. J'exige et je prends le droit de sortir de l'hétéropatriarcat. Or, si j'ai écrit ce livre, C'est parce que je suis convaincue qu'on pourrait être tellement plus nombreuses à prendre cette route-là, à poser ce très beau choix, si seulement on savait qu'il existait. Si seulement on nous donnait une carte, qu'on nous expliquait comment nous repérer. Quand j'ai commencé à explorer mon désir pour des femmes, j'ai cherché des témoignages, des récits. J'en avais besoin pour me rassurer et aussi pour mieux comprendre ce qui m'arrivait. Heureusement, j'ai trouvé quelques pépites pour m'accompagner, comme l'excellent podcast « Comment devenir lesbienne » que ce livre vient compléter. D'ailleurs, non seulement il est possible de vivre hétéra quelque temps et de se réveiller lesbienne un peu plus tard, mais cette trajectoire est même celle de la majorité des personnes qui s'affirment lesbiennes. Et oui, d'après les rares études statistiques disponibles en France, la plupart des lesbiennes ne se sont pas toujours définies comme telles. Nous sommes très nombreuses à avoir arpenté les terres désolées de l'hétérosexualité avant de rejoindre le pays de cocagne lesbien. On peut donc devenir lesbienne à n'importe quel âge. On peut devenir lesbienne en étant mère de plusieurs enfants issus d'un couple hétéro, ou à la suite d'une transition de genre, ou après avoir été célibataire pendant 20 ans, ou encore au lendemain d'une rupture hétéro. Tous les scénarios sont possibles. Quel que soit votre âge, votre situation de couple ou de famille, et quel qu'ait été votre passé, votre futur peut être lesbien. Une fois cette question du choix posée, peut-on dire pour autant qu'il est possible de décider librement de son orientation sexuelle et romantique et qu'il suffit de vouloir pour pouvoir? Peut-on changer d'amour comme on change de shampoing? Évidemment pas. Nos vécus sont complexes, subtils, jamais complètement lisibles sous l'angle de la causalité. Il y a toujours, je crois, une part de nos parcours qui échappe à la rationalisation. Nous sommes des réservoirs de possibles. Une combinaison unique de potentiels, autant de graines riches de promesses. On peut créer les conditions nécessaires pour que certaines d'entre elles germent, sans jamais détenir de garantie sur le résultat. Mais on ne peut pas, personne ne le peut, faire pousser ce qui n'est pas là. Cela signifie que les thérapies de conversion évoquées plus haut, qui visent à transformer les personnes homosexuelles ou bisexuelles en hétéros, ne servent à rien. Leur seul effet avéré est de créer de profonds traumatismes chez les personnes qui la subissent, et ces thérapies ont d'ailleurs été interdites récemment en France, comme dans de nombreux autres pays. Cela signifie aussi que les étapes résumées dans ce guide n'ont pas valeur de vérité absolue, ni la prétention absurde d'apporter des réponses à toutes les questions qui accompagnent une sortie de l'hétérosexualité. Je peux d'autant moins prétendre à l'exhaustivité que le féminisme m'a appris que tout regard était situé. Je parle depuis ma condition de femme cisgenre, valide, blanche, bourgeoise et mince. Ces qualificatifs n'épuisent pas mon expérience du monde, mais ils l'orientent. Il y aura donc forcément des manques, des carences, des trous, et même, aux yeux de certaines, des erreurs. J'espère seulement donner envie aux femmes qui le souhaitent d'oser faire un pas de côté, d'aller voir ce qui se passe là-bas, loin de la norme hétérosexuelle. Je souhaite que ce guide leur apporte quelques-unes des clés dont j'aurais aimé disposer quand j'ai commencé à faire l'école buissonnière de l'hétérosexualité. Commençons sans tarder. La première leçon que j'ai apprise, peut-être la plus cruciale, est la suivante. On peut respecter le vécu de tous, même quand on ne le comprend pas. On peut vivre sa vérité intime et s'ouvrir au possible qu'on sent frémir en soi sans avoir besoin de prétendre que tout le monde a pris, devrait prendre ou prendra le même chemin. Je suis devenue lesbienne à presque 30 ans. D'autres l'ont toujours été, certaines ne le seront jamais. Il n'y a aucune nécessité de choisir entre ces réalités, aucun besoin d'en nier une pour affirmer la validité de l'autre. On est lesbienne et on le devient.
Je vais lire deux poèmes d'Élodie Petit, parus dans Anthologie douteuse, 2010-2020, avec Marguerin Lelouvier. C'est seulement le matin que je me rends compte de ta peau, parsemée de taches brunes, tes épaules rondes en taches de rousseur, tes cils parfaitement bruns, clos, tes yeux en sommeil, tu dors. Même tes voisins hystériques ne t'atteignent pas. Ta chatte noire nous observe de ses yeux humains perçants. Je crois lire dans son regard qu'elle nous trouve belle, nue et blottie, pleine d'amour et de sexe. Je caresse ton dos doux d'une main et renifle mes doigts, d'une autre. Je sens encore ton sexe gonflé sous ma paume, tes deux trous s'offrir à moi et ton cul bombé, sous mes lèvres. J'aime prendre tes cuisses charnues et les mordre jusqu'au sang après la chair, croquer tes mini-seins parfaitement remontés vers le plafond. Les sentir plus durs sous ton t-shirt quand on danse, je passe ma main sur ta nuque étroite et trempée, tu m'attires sur tes genoux, je veux lécher ta peau salée. Je lèche ton cou, ta joue, ton lobe d'oreille, tes cheveux, ma main sur tes reins mouillés, ta langue fine et précise dans ma bouche, ta mâchoire féline sous mes doigts. J'ai retiré mon pull avant de te regarder danser et d'aimer tes seins. J'ai retiré ta culotte avant de retirer la mienne. Je t'ai aimé avant de savoir ta peau délier le nœud. Des cordes esquintées, ton corps à l'automne noir. J'ai aimé ton sexe avant de le goûter, ma bouche contre. Tu t'es assise sur mon pull au creux de mes mains dans ce jardin la nuit. Tu as retiré ton pull avant de me regarder danser et d'aimer mes seins. Tu as retiré ma culotte avant que je retire la tienne. J'ai aimé ton goût avant que tu ne me donnes ta peau.
Je vais vous lire un texte qui s'intitule « Je veux une Gwyn pour président » qui a été écrit par Zoé Léonard en 1992 et que j'ai découvert lors de l'occupation de mon école d'art. Elle était placardée un petit peu partout et ça m'a beaucoup touchée. Je veux une Gwyn pour président. Je veux une présidente qui a le sida et un PD pour premier ministre. Quelqu'un qui n'a pas la sécu, qui a grandi quelque part où le sol est tellement pollué qu'elle n'a aucune chance d'échapper à la leucémie. Je veux une présidente qui a avorté à 16 ans, une candidate qui ne soit pas le moindre mal. Je veux une présidente dont l'année dernière amante est morte du sida, dont l'image la hante à chaque fois qu'elle ferme les yeux, qui a tenu son amant dans ses bras, tout en sachant qu'elle était en train de mourir. Je veux une présidente qui vit sans la clim, qui a fait la queue à l'hôpital et à la préfecture et au guichet de l'aide sociale, qui a été chômeur, qui s'est fait licencier, harcelé sexuellement, tabassé à cause de son homosexualité et expulsé. Je veux quelqu'une qui a passé la nuit au trou, qui a été menacée par le Ku Klux Klan et qui a survécu à un viol. Je veux qu'elle ait été amoureuse et blessée, qu'elle ait du respect pour le sexe, qu'elle ait fait des erreurs et en ait tiré des leçons. Je veux que le président soit une femme noire. Je veux qu'elle ait des dents pourries et du caractère, qu'elle ait déjà goûté à la mauvaise bouffe d'hôpital, qu'elle soit trans, qu'elle se soit droguée et qu'elle ait suivi une thérapie. Je veux qu'elle ait pratiqué la désobéissance civile. Et je veux savoir pourquoi ce que je demande n'est pas possible, pourquoi on nous fait gober depuis toujours qu'un président est toujours un clown, toujours un micheton et jamais une pute, toujours un patron et jamais un travailleur, toujours menteur, toujours voleur et jamais puni.
Je vais lire l'introduction de La question femme, un texte de Joanne Nessel, qui est une autrice qui a beaucoup écrit sur l'identité femme et la culture butch femme, surtout dans les années 50, et qui a fondé les archives lesbiennes de New York. Depuis plusieurs années, j'essaye d'imaginer comment expliquer l'essence particulière des relations butch-femme aux féministes et aux lesbiennes féministes qui les considèrent comme une reproduction des modèles hétérosexuels et qui écartent ainsi les communautés lesbiennes passées et présentes qui revendiquent cette expression. Avant de continuer, on me demande de définir le terme même butch-femme et la complexité de cette tâche me submerge. Mener une vie butch-femme n'a pas été un exercice intellectuel ni une série de théories. Je sais intimement ce qu'a signifié être femme, mais il est très difficile d'articuler cette identité de manière à ce que cela rende justice à sa nature profonde, tout en satisfaisant la curiosité des lectrices. Essentiellement, la dénomination butch femme désigne une façon de percevoir, d'aimer et de vivre qui peut être exprimée par des individus, des couples ou une communauté. Dans le passé, la butch était décrite de manière simpliste comme la partenaire masculine, la femme étant sa contrepartie féminine. Ces étiquettes oublient les deux femmes qui ont développé leur style propre pour des raisons spécifiques, qu'elles soient érotiques, émotionnelles ou sociales. Les relations butch-femme, telles que je les ai vécues, étaient des affirmations érotiques et sociales complexes et non pas des répliques factices de l'hétérosexualité. Elle se nourrissait d'un langage profondément lesbien de posture, d'habits, de gestes, d'amour, de courage, d'autonomie. En particulier dans les années 50, les couples butch femmes étaient les combattantes d'avant-garde contre le conservatisme sexuel. Parce qu'elles étaient si visibles, elles essuyaient la violence quotidienne de plein fouet. L'ironie du changement social veut qu'une position radicale, sexuelle, politique des années 50 soit maintenant considérée comme une pratique réactionnaire et non féministe. Mon expérience s'enracine profondément dans ces coutumes lesbiennes, et je vous livre ici mon interprétation de lesbienne sur sa propre vie. Je suis une femme depuis plus de 25 ans. Je sais ce que provoque actuellement cette affirmation. Beaucoup de lesbiennes me rejettent comme si j'étais une victime, une femme qui n'a pas eu le choix, mais ma vie dans toute sa vérité révèle une histoire fort différente. Nous, les femmes, avons contribué à maintenir notre monde lesbien uni à une période dangereuse. Nous avons prodigué plus d'amour et de moiteur sur nos tabourets de bar et dans nos maisons que ce qu'on attend des femmes. Je n'ai pas d'outils théoriques pour expliquer comment l'amour est venu ou pourquoi l'attirance pour les femmes sombres et minces a explosé en moi et m'a rendue si timide que je ne pouvais qu'avoir l'air dure, à tel point qu'elle devait se détourner. Mais ni moi, ni les autres femmes que je ne connaissais n'étions en sucre. Nous savions ce que nous voulions et c'était un exploit formidable pour des jeunes femmes des années 50, à une époque où le pouvoir politique nous serinait qu'il fallait être dans la norme, se marier, avoir des enfants. Oh, nous avons nos manières. Nous nous parions, nous parfumions, nous donnions en spectacle, et nous pouvions nous égarer dans le cou de nos partenaires de danse qui nous tenaient suffisamment serrés pour écarter tout danger. Mais nous marchions la nuit jusqu'à notre bar, et nous en sortions les yeux troubles au petit matin désert pour affronter une longue et morne semaine de faux-semblants au bureau, au salon de coiffure ou à la compagnie de téléphone. J'ai toujours su que nos vies étaient un mélange étonnant d'aventures romanesques et de réalisme. Je pourrais vous raconter des histoires. Celle de la femme de 20 ans qui, tous les samedis soirs, emportait au bar son god préféré dans un petit sac de satin rose. Ainsi, sa partenaire d'un soir savait exactement ce qu'elle voulait. Ou comment, à 17 ans, je traînais au pam-pam au coin de la 6e avenue et de la 8e rue à Greenwich Village avec toutes les autres femmes qui étaient trop jeunes pour entrer dans un bar et qui ne savaient pas encore se fabriquer une fausse pièce d'identité. Ce café vide et fatigué était notre camp d'entraînement, notre lieu de rassemblement pour organiser nos raids de la soirée. Il n'y avait pas que des femmes, mais aussi des jeunes butches de tous les quartiers qui prenaient le temps de se peigner comme il fallait dans les miroirs à côté de la porte. Ou encore quand j'ai enfin pénétré dans mon univers, un bar de la place Abingdon où j'ai appris que les femmes s'y retrouvaient depuis des années. Nous, les femmes, affrontions les descentes de la police des mœurs, les femmes flics en civil, la queue aux toilettes avec sa ration précise de papier, les clients qui essayaient de payer une femme pour la nuit, et les hétéros qui nous regardaient avec des yeux écarquillés en nous prenant pour des monstres divertissants. Ma passion m'avait conduite chez moi, et aucune des voix haineuses du macartisme des années 50 ne m'aurait éloignée de ma communauté. Chaque fois que je fais une conférence lors d'une réunion lesbienne féministe, je me présente comme une femme qui s'est ouvertement affirmée dans les années 50. Parce que c'est vrai, et parce que cela me permet de rendre un hommage historique à mon époque et à mon environnement lesbien, aux femmes qui se sont éclipsées, mais dont j'entends encore les voix, et dont je distingue encore les chandails à col en V et les mocassins brillants. Parce que, de cette façon, je peux évoquer les femmes que je voyais en train de faire leurs courses avec leur amante au supermarché du Lower East Side, les compagnes femmes des Butch qui travaillaient comme serveuses au Club 82. Je me souviens de quelle manière la femme a soutenu sans sourciller le regard des autres clients tout en restant, avec douceur, au bras de sa compagne. On remarquait les Butch par leur apparence, les femmes par leur choix. Enfin, parce que je le fais au nom des épouses des femmes qui se faisaient passer pour hommes et qui me regardent encore sur les photos de vieux journaux, ces femmes que les journalistes décrivaient comme celles qui se sont fait avoir, mais dont les histoires suggèrent des choix bien plus complexes. Et quand des femmes semblaient être les épouses de femmes qui passaient pour hommes, les protectrices féminines de la rectitude du couple, il était si facile de ne pas s'intéresser à ce qui en faisait des hérétiques sexuelles, car elles ressemblaient à des femmes. Ainsi, les femmes sont devenues victimes d'un double rejet. Dans le passé, elles ne semblaient pas être culturellement si différentes des hétérosexuels pour qu'on remarque qu'elles brisaient les tabous relatifs au genre. et actuellement elles n'ont pas l'air assez féministes, même dans leur contexte historique, pour mériter l'attention ou le respect d'avoir été des femmes qui ont tracé la voie. Je vais lire deux poèmes d'un auteur qui s'appelle Julien Bury, qui sont parus en 2022 dans un recueil de poèmes qui s'appelle Parade. Caravage. Tu te souviens d'une lointaine nuit napolitaine en 1998. Tu sondais, à en avoir mal aux yeux, le fond de l'église Pio Monte de la Misericordia. Tu étais venu voir une peinture de Caravage, les sept œuvres de miséricorde. L'éclairage coûtait quelques lires, mais, une fois la lumière enclenchée, on n'y voyait guère mieux. La toile de 1606 se dérobait dans l'obscurité et les glacis du temps. Tu n'as donc pas vu l'ange aux ailes de suie, le flambeau, les pieds pâles du mort, ni la femme nourrir le vieillard au sein. Pourtant, la nuit était devenue cet espace où les êtres s'entraident et se portent secours. C'est cette nuit que tu cherches, à chaque fois, dans le bois. Réparer. Tu sais parfois leurs prénoms, quelquefois d'où ils viennent, rarement leur métier. Les corps sont à double fond. Ils contiennent d'autres corps, ceux des garçons de l'école qui ont fait de ta vie un enfer. Pédé, pédale, tapette. Apaisé pour les générations passées, pour les générations à venir. Transformer la cruauté, d'ailleurs et de jadis, d'ici et de maintenant. Ta langue dans leur anus, leur bouche autour de ta queue, vous réparez, adoucissez ce qui blessait, mettez un peu d'ordre dans la haine du monde. Ensemble, vous trouvez la parade.
Je vais vous lire un extrait de Testo Junkie, un livre de Paul B. Preciado, qui est un philosophe, commissaire d'exposition et auteur trans, dans la lignée des travaux de Cathy Hacker, Judith Butler, Monique Wittig et Michel Foucault. Cet ouvrage, traduit dans une dizaine de langues, sont des références internationales des études queer, trans et non-binaires. Addiction. Je ne la vois pas pendant quelques jours. Elle m'écrit en me disant que ça ne peut pas continuer, que ça ne va pas être possible, qu'après P, elle ne veut pas rentrer encore dans une relation comme ça, où il y a tant de niveaux de connexion, où tout coule comme de l'eau. Le cinquième jour sans elle, je m'administre de nouveau une dose de 50 mg de testostérone. Cette nuit-là, je ne dors pas. Je me lève plusieurs fois pour relire ses emails. Je les filtre, les examine, je les lis comme les moines médiévaux lisaient la Bible. Grâce dans le déchiffrement. Quis potest fallere amantem. Je reste des heures assis sur le sofa, dans l'obscurité, et j'entre dans un état proche de l'auto-hypnose. Je remarque que les quatre dernières doses de 50 mg interagissent pour la première fois, formant un bloc chimique qui me défonce. La peau à l'intérieur de ma bouche est devenue plus épaisse. Ma langue est comme un muscle érectile. Je sens que je pourrais fracasser la vitre avec mon poing. Je pourrais sauter jusqu'au balcon d'en face et baiser la voisine si elle m'attendait en écartant les cuisses. Mais, cette fois, la testostérone comme un biosupplément énergétique activé dans un programme culturel féminin me pousse à ranger et à nettoyer frénétiquement mon appartement toute la nuit. Premièrement, une catégorisation profonde et efficace. Je ne fais presque pas de bruit. Les mouvements sont précis. Les yeux, les bras et les jambes avancent et reculent successivement, droite, gauche, avant, arrière. Dans ma bibliothèque, je déplace tous les Foucault amoncelés au rayon cyberpolitique et les range à la lettre F. Je remets le Tomatis à sa place, deux Elias, deux Bourdieu, le Joe Spence, un Reagan, trois Haraway, un Virneau, une pile de Butler en trois langues, deux Davis, le Nina Roberts. Je mets les Lemebel en première ligne, la photo de Pedro et Paco déguisés en frigacalo, leurs cœurs blessés unis par des sondes transparentes. Je jette la traduction anglaise de Flaubert à la poubelle, je récupère le resté vivant de Welbeck dans la chambre pour le mettre sur mon bureau. Je soulève toutes les chaises, je déplace le sofa, le lit, le meuble de la télé et un coffre pour passer le balai et la serpillière imbibée de savon antibactérien. Je me livre à une opération de désinfection. La chienne ne me suit pas dans ce délire testostéroné. Elle ne bouge pas du lit, même quand je soulève de 30 cm au-dessus du sol pour enlever ce qu'il y a dessous. En moins de 25 minutes, j'ai fait tout l'appartement. Il est 5h35. J'ouvre les fenêtres. L'air de la nuit entre comme un vampire qui souffle son haleine directement dans les couloirs de mon néocortex. Et, comme les autres fois, je recommence à sentir ce désir irrépressible de sortir, de sentir la ville s'éveiller sous mes pieds. Je sors. Ainsi passent plusieurs jours T. À la fin, sa réponse arrive. Viens. Elle m'emmène au terrasse hôtel pour faire de moi sa pute. Je suis complètement défoncé à la testostérone. J'expérimente, spectateur de mon propre corps, l'ouverture de nouveaux centres cellulaires de réception de l'excitation, de l'agressivité, de la force. Mais ce n'est pas un état permanent. La faiblesse peut m'attaquer n'importe quand. Je peux de nouveau me sentir amoureuse, fragile, et ce comme une simple certitude somatique, sans avoir besoin de me raconter des histoires. Nous sommes à peine rentrés dans l'hôtel qu'elle se dirige vers la réception, donne son nom anonyme, ouvre son sac Chanel de grande dame, sort sa carte de crédit et paye tout d'avance, y compris 2 coca et 2 Toblerone du mini-bar qui seront consommés ultérieurement. Je ne fais pas le moindre geste pour payer. C'est le contrat. Elle paye et je la baise. Elle me paye pour que je fasse d'elle ma pute. Nous montons à pied jusqu'au 3e étage. Dans l'escalier, elle me dit « Je veux pouvoir te sucer ici tout de suite. » Elle ouvre la porte de la chambre, se déshabille sans me parler, puis se touche les tétons en gémissant. Ses tatouages sont des bas-reliefs d'encre sur sa peau si blanche. Viens, viens. On baise au terrasse hôtel du 18e arrondissement, où elle et CTT ont filmé la scène de Baise-moi, dans laquelle Karen et Raphaëlla dansent ensemble. Avant, sur la plage avec la mer en fond et la voiture sur le sable, Manu a dit à Nadine « Je propose qu'on reste ensemble. » Pendant qu'elle danse, la musique répète « It's to feel what I want to feel. » Ce plaisir ne ressemble à aucun autre, pas même au plaisir de se masturber devant la télévision ou au plaisir de fumer. C'est le plaisir de savoir qu'elles resteront ensemble quoi qu'il arrive. Ensuite, elles sortent voler des cartes de crédit, elles butent une fille à un guichet. Au retour, elles choisissent 2 mecs, montent avec eux dans la chambre, celle-là même où V et moi sommes en train de baiser, et elles se regardent, d'un lit à l'autre, partagent le plaisir de se faire pénétrer en même temps. Ce jour-là, dans la même chambre que Karen et Raph, on baise nu pour la première fois. Son bassin se colle au mien, sa vulve est branchée à la mienne, nos sexes se mordent comme les gueules de 2 chiens qui se reconnaissent. Pendant qu'on baise, je sens que toute mon histoire politique, toutes mes années de féminisme avancent directement vers le centre de son corps pour s'y déverser, comme si elles trouvaient sur sa peau leur unique, leur véritable plage. Quand je jouis, Wittig et Davis, Wolf et Solanas, la Passionaria et Kate Borstein bouillonnent avec moi. Elle est couverte de mon féminisme comme d'une éjaculation fine, un océan de paillettes politiques. Je me réveille plus tard, sa main est dans mon vagin. Émergeant de mon bassin, son corps entier est devenu ma bite. Mais les veines de ses bras ont beaucoup plus de classe que les veines d'une biobite. J'attrape son bras à 2 mains, je le frotte de haut en bas, comme pour une branlette contrasexuelle. Puis je remonte jusqu'à son épaule droite, son cou, j'enfonce 2 doigts dans sa bouche. Elle les suce, sans retirer sa main de mon corps. Le plaisir découle de ces agencements des puissances, hiérarchie de fonctions dont la stabilité est nécessairement précaire. Nous continuons comme ça, tel un animal bicéphale en équilibre, jusqu'à ce que je jouisse dans sa main, jusqu'à ce que ma main jouisse dans sa bouche. Nous sortons de l'hôtel. Les coudes me brûlent. La baiser, c'est plus dur que de travailler à l'usine, plus dur que de conduire un camion chargé de nitroglycérine dans un film de cow-boy. Elle m'arrache la peau à chaque fois.
Je vais lire un texte de Lou Bourdeau qui était avec nous pendant la résidence à Felletin. C'est le début d'un texte qui est encore en travail. Elle a 5 ans. Elle est dans la cour de récréation de son école catholique. C'est l'été, il fait chaud. Ses amis garçons enlèvent leur t-shirt pour se mettre torse nu. Elle décide de les imiter. Elle jette son t-shirt par terre et continue à faire du vélo à petite roulette, savoure l'air frais sur son torse plat. 2 institutrices se dirigent vers elle de leurs pas autoritaires. Elle lui tend son t-shirt. L'enfant ne se rappelle pas leurs mots, mais comprend l'inflexion dans le ton de leur voix, l'ordre pressant de devoir remettre son haut, se rhabiller, car elle est une fille. À ses amis garçons, on ne demande pas de se rhabiller. Elle a 5 ans, et prend conscience à ce moment-là des premières limites que son genre assigné à la naissance a induit sur sa personne et des différences binaires de traitement. Merci de nous avoir écoutés. C'était l'émission Unique ou Rien sur Radio Vassivière. Vous pourrez retrouver le premier épisode sur le site de Radio Vassivière.
Rien de rien.
C'était les Uniques ou Rien sur Radio Vassivière.
Rien de rien.
Pour plus d'infos sur le programme que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre site web radiovassivière.com.
Ça m'est bien.